Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro de jeu du mois de cette saison 7 de Proxy Jeux. Je cherchais encore le numéro de la saison. Et je suis en compagnie de Beno FX. Bonjour Beno FX.
Bonjour Cyrus, bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque Beno FX est chez moi, donc on enregistre à domicile et en visu, comme au week-end Proxy Jeux. Ouais. Sauf que du coup on n'a pas le matériel, on n'a pas le studio, on n'a pas la table de mixage, ça, donc je sais pas trop encore ce que ça va donner.
On a chacun sur notre PC, ça fait un peu ambiance LAN.
C'est ça, on a un peu ambiance LAN, c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Chacun notre PC portable, chacun notre micro USB, ouais. On va voir ce que ça va donner. Enfin voilà, c'est pas les conditions habituelles, hein, donc vous étonnez pas si le son est peut-être un petit peu bizarre. Voilà, ça a peu de chances de se reproduire à l'avenir. Alors numéro spécial également parce que on va pas vous parler de deux jeux aujourd'hui. On va plutôt vous faire un retour sur le festival Paris Ludique auquel on a tous les deux participé.
Un peu comme on a pu déjà le faire sur le festival de Cannes.
C'est ça.
Voilà, on va faire un numéro un peu hors série.
C'est ça, un petit numéro hors série. Alors pour diverses raisons, alors non seulement parce que l'actualité effectivement c'était le festival, mais aussi parce que bon, on n'a pas spécialement deux jeux à mettre en avant l'un comme l'autre. Donc pourquoi pas vous parler un petit peu de tout ce qu'on a pu voir sur le festival et puis faire un petit peu de preview aussi parce que on en reparlera, mais Paris Ludique c'est beaucoup l'occasion de voir des protos de jeux qui sont dans les cartons des éditeurs, ouais. À venir très prochainement.
Pas mal de protos, pas mal de jeux pas encore parus. Y a de quoi faire à Paris Ludique tous les ans.
Alors on va découper ce podcast en deux parties malgré tout. On va d'abord faire un petit retour sur le festival, notre ressenti sur le festival en tant que tel, et puis on parlera de jeux pour finir dans la deuxième partie. Le festival en tant que tel, alors je suis allé demander quelques informations aux organisateurs parce que j'ai pas trop vu d'infos passer autrement. Donc pour ce qui est des faits, on va dire, que j'ai pu recueillir auprès des organisateurs, le nombre de visiteurs annoncé 16 000 personnes, dont 7500 le samedi, 8500 le dimanche. Alors c'est vrai que j'ai trouvé que le dimanche était vraiment blindé.
Ouais, je sais pas toi. Moi le dimanche après-midi du coup j'étais un peu moins à me balader sur le festival puisque j'avais une table chez Pixie pour présenter un proto que je viens de signer chez eux. Mais effectivement, sensation qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, que le samedi était plus agréable que le dimanche. Ouais. En plus il a fait plutôt plus chaud le dimanche après-midi, ça tapait bien, donc je pense que ça aide pas à se sentir à l'aise, la chaleur plus la foule.
Ouais, alors rappelons qu'effectivement le festival Paris Ludique se déroule à l'extérieur, donc c'est Pelouse de Reuilly, donc c'est le 12e, enfin c'est l'extrémité du 12e, c'est ça, ouais. Hein,
alors c'est la deuxième année que c'est sur la pelouse de Reuilly. Avant c'était sur le boulodrome qui était pas très loin.
Oui, c'est juste en face en fait.
C'était juste en face, ouais. Donc là, c'est aussi confirmation que la pelouse de Reuilly est bien plus adaptée que l'ancien boulodrome, déjà en termes de place et aussi en termes de poussière, parce que le boulodrome était très très poussiéreux. Donc là, la pelouse de Reuilly, c'est en plus il y a possibilité de s'agrandir encore un petit peu puisque c'est là où se tient la foire du trône tous les ans.
Ouais, j'ai vu qu'il y a de la place. Hein. Le festival n'occupe pas tant de place que ça.
Non, par rapport à la pelouse qui est très grande pour la foire du trône, le festival doit occuper un quart peut-être de l'espace disponible pour la foire du trône, quoi. Donc il y a possibilité de s'agrandir encore, je pense, là-dessus. Et l'endroit est quand même bien adapté, je trouve. C'est assez sympa. Les allées sont assez aérées quand même. Hein. Malgré le monde, on circule pas trop mal.
Oui.
Bon, après. C'est les avantages et les inconvénients d'un festival de plein air, hein, c'est que c'est en plein air, c'est plutôt agréable, il y a plutôt de la place. Après, il peut y avoir un peu de vent, il peut y avoir beaucoup de soleil, même si c'est sous des tonnelles, ça peut être un peu harassant. Mais,
ouais, c'est ça, faut pas être trop sur les bords des tonnelles quand le soleil donne. Et effectivement, le soleil a pas mal donné ce week-end, et le vent aussi. Hein. De toute façon, tous les ans, Paris Ludique, c'est soit le vent, soit la pluie, soit la poussière.
Ouais.
Il y a quand même des zones, un peu moins bien niveau poussière. Hein. Il y a des zones avec gravier, une espèce de poussière en dessous là.
Ouais, mais c'est sans comparaison avec le boulodrome quand même.
Ouais, c'est clair. Je me rappelle au boulodrome, je revenais avec les chaussures qui étaient rouges, un peu comme si j'avais fait un match de tennis sur terre battue.
Surtout, tu te mouchais noir pendant 3 jours. Vraiment, t'avais respiré la poussière.
Ouais. Donc bah moi c'est la première fois que l'année dernière j'avais pas eu l'occasion d'aller à Paris Ludique, donc je découvrais ce lieu. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt adapté, et on sent qu'il y a de la place pour s'agrandir. Pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai eu du mal à trouver des tables pour jouer. Alors particulièrement le dimanche, et j'ai halluciné. Alors j'ai demandé du coup les places qui étaient disponibles. Ils donnent sur tout le festival 1330 tables. Bon, ça doit compter aussi les tables pour la restauration, etc. Ouais. Hein. Mais c'est quand même assez conséquent. Et j'ai été surtout surpris le dimanche par y a un espace jeu à volonté,
oui.
Donc dans lequel les gens vont prennent une boîte en gros et vont jouer.
Ça, il y a une table avec plein de jeux. Enfin, il y a énormément de jeux, une grosse ludothèque en fait, et les gens se servent et jouent à ce qu'ils veulent, quoi.
Là-dedans, ils annoncent plus de 150 tables.
Bah, l'espace est grand, hein. C'est vrai.
C'est énorme.
L'espace est assez énorme. En plus, ça. L'espace contient aussi un autre espace dans lequel il y a tous les jeux surdimensionnés. Il y a tout un chapiteau avec des jeux surdimensionnés.
Bah, disons qu'il y a un grand chapiteau, donc une partie à l'abri, il y a une partie à l'extérieur, ouais. Il y a un autre plus petit chapiteau, et en face de tout ça, il y a une partie effectivement avec des jeux surdimensionnés. Ouais. Et le dimanche, c'était plein. C'était plein. Et à un moment, en fait, j'y suis allé avec un ami, j'ai dit, bon, écoute, on trouvait plus de table en fait, pour jouer, hein, donc j'ai dit, écoute, on va aller là. Non seulement il y avait même plus de jeux intéressants sur la table des jeux, mais de toute façon il y avait plus de place pour s'asseoir. C'était hallucinant. Donc le festival est complètement victime de son succès. J'ai remarqué ça aussi, les files d'attente, ils ont beau mettre en place un système de pré-vente, finalement ça reste une file d'attente conséquente. Alors finalement c'est quand même assez rapide,
ouais,
mais ça fait peur quand t'arrives.
Sur la file d'attente, je pense qu'ils sont améliorés aussi, peut-être par rapport aux souvenirs que j'ai de l'édition que j'ai fait au Boulodrome. C'est une file d'attente qui est conséquente mais qui va assez vite et qui se résorbe aussi assez vite. Je veux dire, le festival ouvre ses portes à 10h. Généralement à 10h30, 10h40, la file est complètement résorbée et on rentre facilement. C'est l'histoire d'une demi-heure, trois quarts d'heure de faire rentrer les gens qui attendent.
Il y a des vagues, il y a ceux qui sont pressés d'être là, qui sont là dès l'ouverture, heures, même voilà. Avant. Et
en fait, c'est avant l'ouverture qui crée une grosse file d'attente, et c'est le temps de résorber cette file d'attente qui met une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, généralement, moi je suis sorti, on est sorti les deux jours, le samedi et le dimanche, on est sorti pour manger du festival vers midi, et en revenant, il y a aucune queue, quoi. C'est vraiment sur le matin l'ouverture, quoi, qui a de l'attente.
Ouais, c'est pas comme à Cannes où tu peux faire la queue jusqu'à 14h.
Avec les contrôles et tout, il peut y avoir de la queue tout le temps à Cannes.
Ouais. Là, il y avait des contrôles aussi là, mais peut-être un peu plus.
C'était quand même moins. Je pense que c'est un peu moins appuyé qu'à Cannes.
C'est pour faire perdre ton temps, quoi. Parce que bon, franchement, les sacs, voilà. Enfin bref.
Oui, donc 1330 tables, donc 150 à jeu à volonté. Ça représente à peu près 5700 chaises, c'est ça?
Sur l'ensemble du festival, ouais. C'est ce qui donne 5700 chaises. Enfin, c'est des chiffres qui sont assez astronomiques.
Et pour 8500 personnes, donc ça confirme que tout le monde ne peut pas s'asseoir.
C'est ça, exactement. C'est vrai, bien vu le rapprochement. D'ailleurs, les 8500 personnes, c'est 8500 entrées. Ce qui est un peu dommage, parce qu'ils auraient quand même moyen de compter simplement le nombre de personnes qui achètent un ticket, ouais. parce que quand même ça marche comme ça, tu achètes ton ticket pour le week-end,
oui.
Et ils donnent des chiffres de fréquentation.
Pour le samedi et le dimanche.
Voilà,
c'est
le nombre d'entrées, en fait. Donc je pense qu'ils essaient de s'aligner un petit peu avec les autres festivals, finalement, qui comptent le nombre de personnes, et si tu rentres, tu sors, écoute, tu re-rentres, tu t'es compté deux fois.
Ouais.
Ce sera intéressant d'avoir un vrai chiffre du vraiment parce que oui, ils sont capables de donner le nombre de personnes uniques en fait. Ils seraient capables de le donner, mais finalement...
après il y a les enfants qui sont gratuits, donc c'est peut-être moins facile à compter.
Ouais, mais bon, je pense qu'ils les. Enfin, est-ce qu'ils ont quand même. Ah non, ils donnent peut-être pas de.
Je sais pas s'il y a un ticket du coup.
De bracelet. Bon, enfin, ça sera à la marge du coup. Voilà un petit peu pour les chiffres de fréquentation. Alors, il y avait 162 exposants. 295 chapiteaux, 2 tonnes de frites vendues sur le week-end. J'ai assez halluciné sur le chiffre. Et si on parle de la restauration, je pense que c'est toujours le point noir de Paris Ludique.
Ouais,
c'est
que à la restauration.
Faut pas trop compter manger vite à Paris Ludique.
Faut y aller tôt ou tard, quoi. Je sais que le samedi, j'ai des amis qui sont allés manger vers 15h. Bon,
ouais,
ça va bien.
Mais même à 15h, ils ont fait la queue.
Oui, ils ont fait un peu la queue. Voilà. Et nous, on est sortis les deux fois. Il y a, allez, à 10 minutes à pied, il y a quand même de quoi manger. Il y a kebab, McDo et
ouais, finalement, tu vas quasiment mettre le même temps.
Ouais, l'aller-retour à pied, c'est le temps d'attente. Il y a au moins une demi-heure de queue pour manger, ouais, à midi, minimum. C'est vrai que c'est un point noir.
Il n'y a pas beaucoup de solutions pour eux. Hein.
Bah, si, déjà. Tout est concentré à un seul endroit. Ils pourraient peut-être faire deux ou trois points de restauration.
Ouais, mais il y a quand même il y a au moins 8 files, non ? J'ai pas trop traîné non plus là-bas, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même au moins 8 ou 10 files pour la bouffe. Ouais.
Non, c'est sûr, la restauration c'est un peu. Après, est-ce qu'ils pourraient faire autrement ? Peut-être, oui. Multiplier les endroits. S'ils faisaient un deuxième endroit avec autant de fils, ça dispatcherait déjà pas mal. Je sais qu'il y a eu des retours aussi de certains exposants et de certains auteurs qui n'étaient pas très contents, puisque avant il y avait un point bouffe spécifique pour les exposants et les auteurs. Les gens payaient, mais au moins c'était un truc à part. Il y avait des sandwichs. L'année dernière, c'était comme ça. Moi, j'avais d'ailleurs mangé un sandwich là-bas l'année dernière. Et là, cette année, c'était que de la boisson. C'est-à-dire qu'il y avait un bar spécial exposant et auteur, mais c'était que pour la boisson. Il y avait pas de bouffe. C'est peut-être le point d'amélioration du festival qui, autrement, est plutôt très bien organisé. Hein. Surtout le reste, c'est plutôt très bien organisé.
Après, ça reste un festival vraiment orienté vers les joueurs, à l'inverse de Cannes qui s'oriente de plus en plus vers les professionnels.
Oui.
Donc c'est là aussi qu'on voit peut-être la différence, surtout pour les VIP qui sortent de Cannes et qui sont peut-être habitués à un petit peu de confort.
C'est vrai. Alors, Paris Ludique, c'est aussi son concours de proto. Il y a tous les ans un concours de proto qui est plutôt conséquent, puisque généralement cette année il y avait 190 prototypes qui étaient inscrits. Il y a eu 30 sélectionnés, 18 dans la catégorie famille et 12 dans la catégorie expert. Et donc il y a tout un espace qui est dédié à ces 30 jeux qui sont en présentation. J'ai eu l'occasion de participer en tant qu'auteur l'année dernière.
Mmh.
Et j'y suis pas retourné trop cette année. J'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai profité un peu plus du festival en tant que joueur, mais c'est très très bien organisé, cette partie là les gens s'inscrivent pour voter sur les différents protos qu'ils testent, et il y a une armada de bénévoles qui redirigent les gens,
qui se renseignent
sur combien de temps il reste sur la partie, pour dès que la partie est finie remettre des gens à la table. Et c'est vraiment pour les auteurs, c'est une super expérience, ce festival, parce que ce concours il est top, quoi. Si on a un jeu qui fait 45 minutes de partie, une heure comme moi j'avais, on fait des dizaines et dizaines de parties sur le week-end, et c'est vraiment
c'est hyper optimisé,
c'est super optimisé.
T'as des rabatteurs, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est des rabatteurs. Et puis ça marche très bien, et puis il y a vraiment un public pour ça. D'année en année, en fait, il y a des gens qui reviennent et ils passent les deux jours du festival sur la zone
sur
proto.
Il y a vraiment
un public pour tester du proto, quoi. Et ça, c'est un des points forts de ce festival. C'est aussi le cas à Ludinor, qui est réputé pour sa partie proto. Mais il y a quelques festivals comme ça. Donc Cannes qui essaye cette année aussi, avec le Proto Lab qu'ils ont créé, de créer une zone proto. Mais c'est un des festivals dont la zone proto est la mieux organisée et la plus réputée, quoi.
Ah, j'ai pas traîné là-bas non plus, parce que comme j'avais dit ironiquement sur Twitter, il y a tellement de jeux à tester dans les jeux d'aujourd'hui que les jeux de demain, hein, puisque l'espace s'appelle jeux
de demain. Jeux de demain,
que pour les jeux de demain, on verra plus tard. Et d'ailleurs, même sur le salon, en fait, enfin sur le festival en tant que tel, chez les éditeurs, c'est aussi bourré de protos
et de jeux pas encore sortis. Ouais.
Ouais, ouais. La
différence, c'est que sur la zone jeu de demain, à l'inscription, un des prérequis, c'est que le jeu ne soit pas signé encore. C'est-à-dire que ça doit être un jeu qui est vraiment pas signé par un éditeur. C'est des gens qui justement sont là pour faire tester le jeu et le montrer aux éditeurs éventuellement aussi.
Oui, alors que du coup, effectivement, sur le festival, sur les stands des éditeurs, en général, c'est des jeux signés ou proches de l'être. Ouais.
Ouais. On va donner les lauréats quand même de ce concours de proto, si on n'y a pas été. Donc dans la catégorie famille, je rappelle qu'il y avait 18 jeux sélectionnés dans cette catégorie. Le gagnant est Snapshot de Bertrand Roux, suivi par Dig Out de David Simid. Troisième prise de bec de Christophe Côte. Donc c'est, alors il communique que sur les trois premiers à chaque fois. Il n'y a pas, il y a pas un classement qui va plus loin que les trois premiers. Donc c'est ces trois-là. Snapshot en premier, dig out en deuxième et prise de bec en troisième sur la catégorie famille. Et pour la catégorie expert, où il y avait 12 jeux sélectionnés, vainqueur Compagnie des Indes de Pascal Ribraud. Deuxième, Terra Explorare, ou Explorar, je sais pas comment, de Eric Jumel. Et troisième, les 12 travaux de Franz Kuderk.
Voilà, donc on vous en dira pas beaucoup plus parce qu'on les a pas essayés ces jeux. Et alors moi il y a aucun nom qui me dit quelque chose. Enfin, j'ai vu le nom d'Eric Jumel passer
Eric Jumel, sur Twitter. Eric Jumel a signé un jeu notamment avec les Ludonautes, je crois.
D'accord.
Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais
pour, la série Legends of Roma,
ouais.
Mais ce serait pas. Mais donc du coup c'est pas celui-là.
C'est pas celui-là, non, c'est un autre jeu. Et bah moi je connais Dig Out, hein, comme je connais David, j'ai eu l'occasion de tester Dig Out. C'est un jeu dans lequel faut s'évader d'une prison en creusant un trou. Et donc il y a différentes zones dans la prison. On va récupérer des objets, on va pouvoir mettre la pression à d'autres joueurs pour leur piquer des objets. Et on va pouvoir en fait crafter les objets pour construire des pièges, des pioches,
d'accord,
des pelles, des cuillères. Et en fonction de l'objet, on va creuser plus ou moins vite dans sa cellule. Et le premier qui s'échappe a gagné la partie. La thématique est assez présente. Alors, il a du mal un peu à situer parce que c'est une thématique qui est assez lourde, le thème de la prison. Mais c'est un jeu qui, dans les mécaniques, est assez familial. Donc, voilà, il a été classé dans la catégorie
familiale.
Ouais,
pas facile, ouais, d'accord, pas facile à vendre derrière.
C'est ça.
pas avec ce thème-là, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre sur PEL? Alors, j'avais noté pas mal de choses sur la diversité en fait du festival pour ceux qui n'auraient encore jamais eu l'occasion d'y aller et qu'éventuellement ça peut tenter. Il y a un espace événement qui est à noter où ils organisent des dédicaces, ils organisent des tables rondes,
des
discussions, des apéros.
Apéro discussion. Ouais.
Ouais, c'est ça. Hein. Alors, j'ai pas trop suivi ce qui s'y passait. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire sur PEL. Donc en dehors de ça, il y a un espace enfant qui est vraiment assez fourni.
Assez fourni, ouais. Qui est assez grand aussi. Hein. Ils ont agrandi l'espace enfant parce qu'il y a vraiment un public familial à PEL.
Oui. Un public de Parisiens de passage, j'imagine, ouais. Alors ce qui est assez marrant, mais bon, c'est toujours les mêmes affiches d'une année sur l'autre, hein, mais ils ont des petites affiches comiques sur lesquelles ils rappellent des messages du style des messages qui indiquent simplement qu'il faut pas laisser
les enfants tout seuls
sans surveillance, et donc des messages du style si on retrouve votre enfant tout seul, on s'en servira pour faire des sandwichs, ou on lui filera un expresso et un petit chaton, ce genre de choses. Assez rigolo. Je vous invite la prochaine fois que vous allez à Paris Ludique à chercher les différentes pancartes de ce type. Quoi d'autre? Il y a un espace Quidditch et Trollball.
Ouais. Il y a un terrain Quidditch, enfin il y a un terrain partagé Quidditch Trollball.
Je suis assez curieux de ce Quidditch. C'est pas la première fois que je vois ça organisé sur un festival.
C'est la deuxième année en plus à Paris Ludique. L'année dernière j'avais eu le temps d'aller voir un petit peu, jeter un coup d'œil. Alors le Quidditch Moldu, c'est assez rigolo, quoi, parce que
j'en ai vu jouer, hein, donc ils ont
le balai entre les jambes, ça, ils courent, quoi.
c'est pas très gracieux comme
ça. C'est rigolo, et surtout le plus marrant c'est le vif d'or. Le vif d'or, c'est la petite balle.
J'ai pas vu.
Dans Harry Potter, c'est la petite balle jaune là qui met fin à la partie quand on l'attrape. Et donc le vif d'or, c'est un mec qui intervient au bout d'un moment dans la partie et qui a une espèce de chaussette dans le pantalon avec une balle de tennis au bout et qui court partout, et donc l'attrapeur doit essayer de l'attraper. Et
d'accord.
Et la règle, c'est que le mec qui fait le vif d'or, il peut courir un peu, il peut sortir du terrain, il peut aller n'importe où. Donc des fois il se balade, il peut se balader. Enfin là j'ai pas vu dans le festival si elle a couru dans les allées du festival, mais
j'ai pas croisé non plus, je crois pas.
ça peut courir loin. Ouais.
Donc ouais, des trucs comme ça organisés façon un peu format géant, donc Quidditch, Trollball, du sabre aussi.
Ouais.
C'est
il y a des associations de sabre,
sabre laser. Voilà, donc pas mal de choses à faire.
Il y a un ring aussi qui est assez rigolo. Enfin moi j'ai participé il y a 2 ans au ring. Il y a beaucoup d'enfants qui participent à ça, mais en fait c'est des petits jeux. Mm. C'est des petits jeux qui durent moins de 5 minutes généralement. Voire très rapide, et il y a un challenger qui défie le champion du ring, et donc il choisit le challenger choisit le jeu sur lequel il veut jouer. Donc il y a des trucs genre Puissance 4, Zombie Dice, Double, enfin des petits jeux qui vont assez vite. Il y a un truc, je sais plus comment il s'appelle ce jeu, où il faut taper avec une hache pour faire tomber des bouts d'arbres. Enfin, il y a plein de petits jeux de ce style-là.
Ouais. Bah, j'ai vu Looping Louis.
Ouais, il y a Looping Louis aussi. Voilà. Donc le challenger choisit le jeu, il y a une malle à jeu, il choisit le jeu sur lequel il veut défier le champion en titre. Et donc le champion, tant qu'il gagne, il reste. Et il faut enchaîner le plus de victoires possible. Et après, il y a un classement sur le nombre de victoires d'affilée. Et donc il y a des lots à la fin de chaque journée, je crois. Il y a un lot pour le samedi, un lot pour le dimanche, pour celui qui a fait le plus de victoires sur le ring. Ça, j'ai trouvé le concept assez rigolo parce que on peut s'inscrire, jouer un petit peu, deux trois petits jeux comme ça rapide. Puis il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient à ça. C'était assez, c'est des petits jeux accessibles.
J'ai vu des parties de Looping Louis. Ouais. J'ai pas vu les autres jeux en fait.
Ouais, en fait c'est le challenger qui choisit le jeu dans la malle. D'accord. Il y a une vingtaine de jeux quand même. Hein. Il y a des trucs, vingtaine de petits jeux. Donc ça c'est assez rigolo aussi.
Alors t'avais tenu combien de parties?
Moi j'avais réussi 3 ou 4 je crois.
Ouais.
Et j'avais gagné à puissance 4, j'avais gagné à double et je m'étais fait sortir sur un zombie dice, le truc où, purement du hasard. C'est un peu rageant quoi.
Ouais. C'est du jeu de hasard.
J'avais fait 3 victoires je crois. Mais après je me suis retrouvé tu te retrouves avec une gamine de 12 ans à double ou voire de 10 ans et
tu te fais laminer quoi.
Non, justement est-ce que je joue à fond ou pas quoi, et du coup
c'est... Ah, j'ai l'habitude, elle peut te laminer hein.
Ouais, bah, c'était très serré la partie de double. Ouais. T'as d'autres choses à dire ou on peut...
Non, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'ambiance du salon. Il y a des chasses au trésor aussi. Ouais. Enfin, il y a plein de choses organisées. Voilà un petit peu pour la partie festival. Mais écoute, on va passer à la partie jeu alors.
Allons-y. Cyrus, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant sur ce Paris Ludique 2017?
Je vais vous parler d'un premier jeu que je n'ai pas essayé sur le festival. Je vais commencer déjà par tricher.
Bah bravo.
Je vais parler de Twin It. Alors j'ai pas joué sur le festival parce qu'en fait on avait eu l'occasion de l'essayer avec Mathieu Despneaux quand il est venu
interview,
pour l'interview, ouais. Exactement. Il nous l'avait présenté et j'avais été complètement séduit par le jeu et du coup je l'ai acheté sur Paris Ludique puisqu'il était en avant-première.
Moi aussi je l'ai acheté.
C'est très bien. Et donc je peux vous en parler rapidement. Donc Twin It, c'est la rencontre de cette fameuse affiche dont vous avez peut-être entendu parler, qui était parue dans les années 2010 peut-être, je sais pas, je sais plus exactement.
C'était un poster jeu.
C'était un poster jeu avec des bulles et des motifs un peu 70s, et le but était de retrouver les trois motifs qui étaient présents par paire, je crois. Là-dessus.
Le poster jeu était de Tom Vuarchex, hein.
Oui.
L'auteur et illustrateur de Jungle Speed.
De Jungle Speed. Là-dessus, donc un couple, Nathalie Saunier et Rémi Saunier, ont eu l'idée de créer un jeu à la frontière entre justement Twin It et Jungle Speed.
C'est ça, une fusion du poster et d'une Jungle Speed.
C'est ça, donc en fait c'est un jeu de rapidité dans lequel il va falloir repérer des paires. Il y a trois modes de jeu, il y a un mode compétitif, un mode coopératif et un mode par équipe. Je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Donc au fur et à mesure, on va retourner des cartes qui sont recto verso avec des motifs toujours 70s.
Ouais.
Et certains de ces motifs existent en deux exemplaires, voire en trois exemplaires dans le jeu. Et donc au fur et à mesure, on va retourner sur la table ces motifs et il va falloir identifier les paires, donc taper dessus le plus vite possible sur les deux cartes.
Et contrairement à Jungle Speed, les motifs qui ne sont pas identiques, c'est pas on les empile, c'est on les étale vraiment sur la table. Donc il y a plein de motifs partout sur la table. Donc
au bout d'un moment, ça fait très mal aux yeux. Ouais, il y a partout.
Parce qu'il y en a plein qui se ressemblent mais qui sont pas les mêmes. Enfin, le travail graphique est vraiment sympa sur Twin It.
Ouais, il y a des les motifs finalement, ça ressemble pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui se ressemblent un petit peu, mais pas tant que ça. Mais la variété qui s'étale autour de la table crée vraiment une.
C'est psychédélique.
Ouais, c'est ça. Le jeu est vraiment très fun. C'est un jeu de rapidité. Hein. Il est donné à partir de 6 ans. Les parties se jouent en 2-3 minutes, quoi, et peut-être 5 minutes. En fait, ça dépend des modes de jeu, parce qu'il y a le mode coopératif.
Il est chronométré.
Ouais, il est chronométré. C'est un jeu en une minute, le but étant de faire d'avoir identifié le plus de paires possible. Et là, dans le jeu coopératif, il faut s'organiser un petit peu parce que si on part tous un petit peu dans tous les sens, forcément, on va pas faire beaucoup de pertes. Donc il y a des techniques hein, pour s'organiser. Hein. Je vais pas spoiler. De toute façon, je suis pas sûr de les connaître toutes. Je pense qu'il y en a sûrement des bien meilleures que celles que j'ai adoptées. Voilà. Et tous les modes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les modes de jeu sont intéressants. Ça fait deux fois intéressant ça.
Doublement intéressant.
Ouais, c'est doublement intéressant parce que généralement dans les jeux qui proposent plusieurs modes de jeu, souvent ajoutés. Et donc par le passé, ça a pas beaucoup réussi. On voit aussi des Kickstarter en ce moment qui proposent un mode compétitif, un mode coopératif. Ouais. En général, on voit bien que le jeu a été fait pour l'un des deux et pas les deux.
Oui, il y a Rune 25 qui avait bien réussi un peu l'alliance du coopératif, compétitif, coopératif
ouais, c'est
avec
vrai,
traître.
Ouais. Mais je me rappelle d'autres plutôt échecs dans Gaia, par exemple. Ouais. Le jeu qui propose plusieurs règles et en fait on sait pas avec laquelle il faut jouer. c'est pas vraiment une réussite. Ou j'ai essayé c'est un truc sur Mars là, Story of Civilization je crois. Il y en a plusieurs des jeux sur Mars et du coup j'ai un peu tendance à les confondre.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment.
Ouais, c'est ça. Bref, celui-là c'était pas une réussite non plus. Et là, bah là ça marche bien. Voilà, donc moi en tout cas je vous le conseille, vraiment. J'ai rejoué des parties du coup avec le vrai jeu et ça marche vraiment bien. Et donc c'est un jeu donc de Rémi Saunier, Nathalie Saunier et Thomas Verschex, qui est édité chez Cocktail Game. Il est au prix de 13,50€ chez Philibert. Alors il est disponible.
Bon, puisque tu as triché, je vais tricher aussi. Je vais présenter un jeu aussi que je n'ai pas testé sur le salon. Mais c'est un jeu... que j'ai pu tester plusieurs fois puisque c'est une localisation en fait de Pixie. Il s'agit de Tiny Epic Galaxy qui était édité à l'origine par Gameline, qui fait toute une série en fait de jeux Tiny Epic quelque chose, Tiny Epic Western, mm-hmm. Tiny Epic, enfin il y en a 4 ou 5 dans la série. Le principe c'est une petite boîte, un jeu dont les règles s'expliquent en moins de 10 minutes et dont les parties durent une trentaine de minutes, généralement entre 30 et 45 minutes. Donc c'est toute une série de jeux différents et Tiny Epic Galaxy se passe bien sûr dans l'espace et c'est un jeu de gestion de dés. Donc c'est un jeu où il va falloir coloniser de nouvelles planètes et donc on va jeter des dés et il y a 6 actions différentes, chaque phase de dés a des actions différentes. Au début on part avec 4 dés, on lance les 4 dés. Et on fait les actions dans l'ordre qu'on veut. On peut défausser 2 dés pour faire une action de son choix, un peu comme dans Roll for the Galaxy plutôt. Mmh. Ou on peut relancer un dé gratuitement, on peut dépenser de l'énergie pour relancer des dés. Il y a deux en fait d'échelles, il y a une échelle d'énergie et une échelle de culture. L'échelle de culture est assez intéressante puisqu'elle va permettre de pouvoir copier une action d'un adversaire quand il joue à son tour de jeu. Et voilà, il faut coloniser un certain nombre de planètes qui sont représentées par des cartes. Chaque planète a un pouvoir aussi, qui est un pouvoir one shot. Donc on peut envoyer des vaisseaux sur ces planètes, soit pour faire le pouvoir one shot, soit pour commencer à la coloniser. Et après il y a des phases de dés qui permettent d'avancer à la colonisation de chacune des planètes. Enfin c'est un petit jeu assez rapide. C'est édité en français par Pixie Game. C'est pour 1 à 5 joueurs. Il y a un mode solo qui est plutôt pas mal aussi.
Ouais.
Il y a un mode solo, en fait, il y a 5 plateaux joueurs et au verso de chacun de ces plateaux joueurs, il y a un mode solo plus ou moins difficile.
D'accord.
Il y a 5 niveaux du coup de difficulté, ça va de novice jusqu'à épique. Et donc on choisit le verso qu'on veut pour jouer en solo. J'ai fait 2-3 parties en solo, ça fonctionne bien, c'est très dur hein, même en Enfin, au début, je me suis dit, j'essaye en normal. Je vais pas y aller en novice quand même. C'est normal, c'est au milieu, ça devrait le faire. Je me suis fait éclater. Après, je dis, bon, bah, je descends à facile, juste en dessous. Pas novice quand même, hein, je vais pas me ridiculiser. Et facile, bon, bah, j'ai perdu à pas grand chose, mais j'ai perdu quand même. Donc, c'est un bon défi en solo. Ça reprend les principes du jeu en solo. Bon, il n'y a pas le petit côté, je suis l'action de mon adversaire
oui,
du coup, en solo.
Ouais.
Quoique aussi, on peut suivre, on jette des dés en fait pour le.
Une sorte de robot.
Pour le bot, ouais. Lui, suit jamais, mais on peut suivre ses actions. Et voilà, c'est un petit jeu que j'aime bien, qui est assez rapide, assez malin.
Mmh. C'est un jeu qui a été kickstarté, c'est ça?
C'est ça, c'était un kickstarter. En fait, Gameline, là, c'est un seul auteur qui fait toujours sa gamme Tiny Epic et qui passe toujours par Kickstarter. Tiny Epic Galaxy, c'est le deuxième ou le troisième, je crois. C'est un de ceux qui a le mieux marché. Il y a une extension qui a été kickstartée aussi. Et donc, Pixie, comme à son habitude, hein, se rapproche un peu des éditeurs un peu indépendants comme ça, qui font des Kickstarters qui marchent pas trop mal. C'était le cas avec avec Shem Phillips, qui avait fait toute la gamme North Sea. Et donc là, ils vont faire les Teeny Epic. Ils ont commencé par Teeny Epic Galaxy, même si c'était pas le premier, parce que c'est un de ceux qui marchait bien. Et ils vont sûrement faire les autres aussi, donc en français. L'avantage, c'est que alors Philibert a déjà les versions, les VO, ils les ont en stock pour pratiquement le même prix. Après, le gros avantage, c'est qu'il y a une francisation de la règle, des cartes, etc. Quoi. Ouais.
Avec quelques fautes quand même, quelques oublis.
Oui, il y a quelques fautes. mais ils sont
j'ai
en train
vu
de
passer
faire
ça
une...
sur Twitter.
Ouais, ils sont en train de faire une V2, mais effectivement, il y a quelques petites coquilles. Bon, c'est rien de méchant. Hein.
Oui, il y avait rien de dramatique, je crois.
Hein, non, rien de dramatique.
Des petits oublis.
Oui, des petits. Surtout sur les faux amis, enfin sur des mots qui sont proches en français, en anglais, genre. Autorise, en anglais c'est authorize avec un H après le T.
Ah d'accord.
Donc c'est le genre de truc qui reste parce qu'ils ont laissé le H, voilà. Mais c'est rien de dramatique. Il est en rupture de stock chez Philibert et je crois qu'il était à quelque chose comme
24,95.
C'est ça.
Ouais. Mais en fait, j'en avais déjà pas mal entendu parler de cette gamme de jeux et moi je pensais bêtement que c'était le même style de jeu mais juste des univers différents et
non, en fait,
que ça changeait au pouillem, tu vois.
Non, en fait, l'auteur part d'un principe que c'est une petite boîte, un jeu relativement facile à expliquer mais avec une profondeur stratégique quand même importante et des parties qui durent entre 30 et 45 minutes. Et les jeux sont complètement différents,
et
c'est-à-dire
dans Teeny Epic, de jeux différents,
Teeny Epic Western, tu vas pas avoir de dés comme dans Teeny Epic Galaxy, Teeny Epic Kingdom, c'est encore un autre un autre fonctionnement, et je sais plus comment il s'appelle. Le dernier qui est passé sur Kickstarter, il y a un petit truc sympa, c'est que il y a des meeples équipables. C'est-à-dire qu'il y a des petits meeples et on va pouvoir leur mettre des épées ou un arc, enfin voilà, c'est des meeples
On les a vus parce qu'ils avaient
ils avaient une boîte
sur le stand de Pixie.
C'est ça, ils avaient une boîte pour montrer le matériel. Par contre, ils pouvaient pas trop la faire jouer ou avant que les ils voulaient pas la faire jouer, faire la démo avant que les backers soient livrés sur le jeu. Donc voilà, ils montraient la boîte pour ceux que ça intéressait de voir à quoi ça ressemblait, mais il n'était pas en démonstration sur le stand.
Ouais, effectivement, c'est des meeples dans lesquels tu peux en ficher dans les bras des armes.
C'est ça, c'est assez rigolo comme principe.
Ouais. Après, c'est plus des vrais meeples, quoi. Ils sont plus en bois, ils sont en plastique. Mais bon,
c'est vrai.
L'amateur de meeples puriste.
Ouais, meeples,
est un peu choqué.
Ça veut dire mini people, ça veut pas forcément dire.
Oui, mais il est en bois quand même, le vrai. Ok, donc ça c'était Teeny Epic Galaxies chez Pixie pour 1 à 5 joueurs. À partir de 14 ans, il est donné pour des parties de 30 minutes pardon, à une heure. Et donc en ce moment en rupture, je fais libérer à 25€ initialement. Et c'est un jeu de Scott Alms.
C'est ça. Et donc c'est lui qui est l'auteur de toute la gamme Teeny Epic.
Alors, autre jeu que j'ai pu essayer sur le salon cette fois-ci, sur le festival cette fois-ci, je ne triche pas. Boo. Donc j'ai essayé Boo. C'est un jeu qui est édité par BlackRock Games. C'est un jeu de Christophe Gontier qui est illustré par Tony Rochon, qui est annoncé pour 2 à 6 joueurs. Alors c'est un jeu qui est dans la veine des jeux du style Robo Rally.
Erratum, il s'agit de Ricochet Robot, pardon.
C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir être le plus rapide à déterminer une sorte de chemin. En fait, il y a un fantôme qui est placé dans un château, qui est représenté par différentes pièces avec des couloirs. Et les murs sont peinturlurés de différentes couleurs. Il y a 6 couleurs, je crois, dans le jeu. Et il va falloir déterminer le chemin qui permet d'amener le fantôme vers le visiteur du château qu'il va falloir effrayer. En passant par une seule couleur de mur.
D'accord.
Donc en fait le fantôme va traverser les murs, on va dire rouge par exemple, et donc il va pouvoir passer que par des
murs
rouges. Voilà. Donc c'est vraiment un pur jeu dans la veine des Ricochet Robots, donc c'est le plus rapide qui va trouver le chemin qui permet d'aller d'un point A à un point B. Et c'est plutôt malin parce que c'est beaucoup plus simple que Ricochet Robot. Bah, y a pas tous les effets de ricochet, justement, de Ricochet Robot. C'est beaucoup plus accessible et je trouvais ça vraiment bien malin. Il y a des petits effets en plus hein, qui permettent de changer de couleur en cours de trajet, etc. Et puis il y a plusieurs modalités de victoire en fait, puisque soit on a récupéré un certain nombre de couleurs, parce qu'en fait quand on va annoncer une couleur, on va prendre le jeton de la couleur en question, par exemple si j'annonce vert, une fois, et quand j'ai des jetons devant moi, je ne peux plus jouer avec la couleur, avec les couleurs que j'ai devant moi. Donc au bout d'un moment, en fait, d'accord, plus ça va avancer, plus ça va être compliqué pour moi. Donc il y a un effet d'équilibrage qu'on retrouve pas dans Ricochet Robot, mais là qui va redonner un peu sa chance aux joueurs qui sont peut-être oui, un peu moins aguerris.
Plus t'es en avance, plus c'est difficile pour toi de...
Ouais, c'est ça. Alors, à moins d'avoir la chance, à moins de tomber coup de bol et que ce soit le bleu que t'as pas, qui soit effectivement le chemin qui va bien. Mmh. Et je pense que, généralement, il peut y avoir sûrement plusieurs chemins qui sont valides, sauf qu'il y a des chemins plus ou moins complexes, quoi. Avec des détours, etc., etc. J'en avais entendu parler plutôt en bien, sans y avoir joué, sans trop savoir de quoi il en retournait. Et, ben, j'étais agréablement surpris. Vraiment un jeu sympathique.
C'est un jeu récent ?
C'est un jeu récent, ouais. c'est un jeu de cette année.
D'accord. J'ai pas vu passer, c'est un peu passé sous mes radars.
Et je pense que c'est un jeu qui est édité par BlackRock Games et je pense que c'est. Enfin, ils s'orientent maintenant sur la distribution, donc à mon avis, c'est peut-être leur dernier jeu vraiment édité en propre. Donc le jeu est annoncé à partir de 7 ans pour des parties de moins de 30 minutes. Alors effectivement, je pense que notre partie elle a dû durer. Peut-être un quart d'heure, et de 2 à 6 joueurs. Potentiellement, on pourrait jouer à plus, mais bah, le fait qu'on puisse gagner avec un certain nombre de couleurs, par exemple, fait que c'est un peu, ce serait un petit peu compliqué, quoi. Voilà, donc il est aussi en rupture chez Philibert. Donc, on n'a pas.
Parce qu'il était en solde.
Il était en solde.
C'est pour ça,
ouais.
Je pense que...
Il était effectivement en solde. Bon, voilà, je pense que vous le retrouverez après dans vos boutiques de proximité. Et autrement, il était à environ 19€. Bah, du coup, je te laisse parler du suivant.
Ouais, alors, un autre jeu que j'ai testé sur le festival, en version éditée cette fois, en version définitive, puisque j'avais pu le tester en proto à l'Uninor l'année dernière, c'est Edgar et Lucien. Donc Edgar et Lucien, c'est le tout premier jeu d'un nouvel éditeur qui s'appelle Gros Fabrique. Et c'est aussi le premier gagnant du concours de proto Paris Ludique. Donc c'était assez sympa pour en parler. Première édition de la protozone donc du jeu de demain à Paris Ludique, c'est Edgar et Lucien qui avait gagné en catégorie expert.
C'était pas la toute première édition de Paris Ludique, il y avait pas ça.
Non, c'était pas la toute première édition de Paris Ludique, c'était la première édition de
la première fois ils avaient fait les jeux de demain.
C'est ça, la première fois où ils ont fait un concours de proto. Et donc c'est un jeu, alors comment le classer je sais pas, mais c'est un jeu dans lequel chaque joueur va avoir deux personnages. Il y a un plateau en fait avec des quartiers de ville, il y a différents quartiers, il y a des quartiers plutôt on va dire d'habitation assez riches, il y a des quartiers plutôt industriels, et il y a 4 ou 5 quartiers particuliers qui sont des quartiers administratifs, on va avoir des actions spéciales sur le plateau. Et en fait on a deux bonhommes, un Edgar et un Lucien. Je sais plus lequel est un politicien et lequel est son garde du corps en fait. Il y a Edgar et Lucien. Je crois que c'est Lucien qui est le politicien et Edgar qui est son garde du corps. Ou le contraire. Enfin bref, ça n'a pas trop d'importance. Mais toujours est-il qu'on a ces deux personnages. Et en fait, à chaque tour de jeu, on a une roue en fait avec des couleurs dessus. On va choisir une couleur face cachée. Il y a deux. C'est une roue. Il y a deux. C'est un peu comme une horloge. Il y a deux aiguilles. Et on va placer une aiguille sur une couleur pour Edgar, une pour Lucien. Et en fait, dans les quartiers où on est, il y a des frontières avec des couleurs. Donc la couleur va indiquer dans quelle direction on va se déplacer. Et ensuite, on va pouvoir faire une action dans les quartiers où on est. Alors, avec le politicien, je ne sais plus lequel c'est, mais on va pouvoir faire plusieurs actions, acheter un quartier, etc. Et avec le garde du corps, on va pouvoir faire des actions seulement si on a récupéré des cartes qui permettent de faire des actions. Ou si on est sur un lieu particulier, enfin, lieu administratif, où il y aura des actions spéciales pour les deux personnages, et des actions qui seront différentes pour les deux personnages. Et Edgar, le garde du corps a aussi l'intérêt, c'est que s'il reste avec le politicien ne peut pas se faire dépouiller. Un politicien qui se balade seul, s'il y a un garde du corps d'un autre qui vient, il peut lui piquer la moitié de sa thune.
Le racket, quoi.
Et donc l'objectif, c'est d'avoir rempplir en fait un certain nombre de conditions de victoire en même temps. Il faut avoir au moins, je crois, 150 000 dollars. C'est une monnaie virtuelle, enfin c'est une monnaie fictive. Il faut avoir une popularité de politicien à 100%. Et donc être gouverneur de la
100%,
ville.
100%, ça n'existe pas ça, pour un politicien.
Bah là, si, il y a une échelle en fait, il y a une double échelle en fait. Il y a l'argent et cette popularité.
Ouais.
Et on va pouvoir dépenser soit de l'argent, soit de la popularité pour faire des actions. Les actions un peu vilaines et tout ça, ça va nous coûter de la popularité.
Je vois un peu de genre.
Et après, il y a quatre conditions, il faut en avoir au moins trois. Il y a une condition, c'est avoir au moins sept quartiers dans la ville, je crois, parce qu'on peut acheter les quartiers, donc les quartiers. Les quartiers vont être, on va mettre des petits symboles de notre couleur. Et la dernière, c'est avoir au moins trois quartiers administratifs aussi. On peut les acheter, donc eux nous rapportent rien en fin de tour. Enfin, en fin de, il y a plusieurs manches en fait qui durent à chaque fois trois ou quatre tours. Et donc à la fin de chaque tour, celui qui est le plus populaire va devenir gouverneur en gros. Et chaque quartier qu'on a acheté va nous rapporter soit de la popularité sur les quartiers de ville, de résidentiel, soit de l'argent sur les quartiers industriels. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez intéressant dans la mécanique. C'est un jeu où on a du mal à sentir la fin de jeu puisque on ne sait pas forcément combien d'argent ont les autres. Il y a certaines conditions.
Par rapport à l'argent, parce que le reste est affiché.
C'est surtout par rapport à l'argent, ouais, parce que le reste est affiché, mais par rapport à l'argent... On sait pas trop. En plus, il y a des conditions qui peuvent être sauvegardées. C'est-à-dire qu'il y a un quartier qui permet, par exemple, voilà, j'ai 150 000 dollars. Je vais sauvegarder le fait que j'ai 150 000 dollars. Donc, je vais montrer à tout le monde que j'ai 150 000. Je vais prendre un petit certificat qui certifie que j'ai 150 000. Et en fait, même si j'ai moins, après, le certificat fait foi. Et en fait, on le perd seulement si un autre joueur demande ce même certificat. C'est-à-dire qu'il y a un exemplaire de chaque certificat
d'accord,
de fin de victoire.
Ouais. Et c'est seulement si... risque de te le faire piquer.
Tu prends le risque de te faire piquer, mais au moins, si t'as... c'est assez difficile d'avoir les trois en même temps. Donc ça te permet d'avoir des... Et donc c'est un jeu, sur mes deux parties, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Mais à chaque fois, j'ai peut-être trop joué dans mon coin, j'ai peut-être pas assez regardé ce qui se passait autour. Et à chaque fois, je me suis un peu fait surprendre par la fin de partie. Alors j'avais bien vu qu'il y avait un adversaire qui était assez riche. En plus, il était en tête dans les sondages en popularité et je voyais qu'il avait pas mal de quartiers. Donc moi j'essayais de on peut racheter les quartiers aux gens. Mais le problème quand on rachète les quartiers à quelqu'un, on lui donne l'argent aussi. Donc c'est-à-dire qu'on lui enlève des quartiers, donc on lui enlève une condition de victoire,
on le renforce.
Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille d'essayer pour faire travailler. Moi, je trouve ça, c'est pas un jeu auquel que je ressortirai souvent, je pense, mais c'est un jeu qui est plutôt agréable et ça vaut le coup de l'essayer. Donc je vous donne la petite fiche signalétique d'Edgar Lucien. Donc c'est édité par Groove Fabric. C'est pour 2 à 4 joueurs. C'est à partir de 12 ans. On est sur 30 minutes à 1 heure de partie. Je pense que ça peut dépasser 1 heure si vraiment les gens sont très vigilants et qu'ils s'empêchent un peu de... Mais voilà, ça peut aller assez vite, effectivement. Donc les durées de partie sont assez variables. J'ai oublié de dire aussi, c'est dans un univers steampunk qui est assez, assez sympa. Au niveau illustration, c'est assez sympa.
C'est des illustrations de Stéphane Gantiès.
Oui, c'est Stéphane Gantiès qui a fait le jeu. Et c'est un jeu de Tanguy Camus et Basile Mayer. Et c'est disponible chez Philibert à 36,90.
Ok, très bien. Alors à mon tour, je vais vous parler de Décrocher la Lune. Alors Décrocher la Lune, c'est un jeu d'équilibre qui est bientôt paru chez Bombix. Mais d'ici à ce que vous écoutiez la chronique, je pense qu'on devrait être vraiment pas très loin de la sortie. C'est pour ça qu'on l'a gardé dans les jeux parus. Il est annoncé pour mi-juillet.
Et puis c'est un jeu dont on voit le proto tourner depuis un certain temps quand même.
Oui, moi j'avais vu un proto géant tourner à Cannes l'année dernière. Effectivement, j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Le jeu est plutôt original. Disons que c'est un jeu d'équilibre. Alors, un jeu d'équilibre, c'est pas très original en tant que tel. Il est présenté dans un univers onirique. En fait, on va essayer d'attraper la lune depuis un nuage. Donc, on a échelles qu'il va falloir donc empiler les unes sur les autres. On lance un dé. Et le dé va nous dire si on doit poser notre échelle en appui sur une seule et unique autre échelle. On appuie sur deux et strictement deux autres échelles. On peut encore avoir comme contrainte de devoir être le plus enfin de placer notre échelle au plus haut point de la structure. Et là, dans ce cas-là, on a le droit de se poser sur une ou deux échelles. Donc c'est plutôt, c'est assez simple finalement. C'est un jeu très abordable. Il est à donner à partir de 6 ans. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui colle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pas perdre dès qu'on va rater son coup. Dès qu'on va rater son coup, en fait, on va prendre une larme de lune, je crois. Enfin, on prend une larme. Et il y en a 6 ou 7, je crois, pour la partie. Ça dépend peut-être du nombre de joueurs. On a joué chez nous à 4 ou 5, je sais plus. Et une fois que toutes les larmes ont été distribuées, on regarde tout simplement celui qui en a eu le moins, sachant que on peut pas tricher entre guillemets prendre volontairement la dernière larme parce que ça nous fera forcément perdre. Ça, c'est plutôt malin comme petite mécanique pour éviter effectivement sur les parties à peu de joueurs peut-être disons que sur la fin si tous tes adversaires ont de base par exemple deux larmes et que toi t'en as pas, tu pourrais mettre fin à la partie volontairement mais non ça tu peux pas. Voilà, c'est alors les échelles sont toutes différentes les unes des autres. Le matériel est assez original parce qu'on a une sorte de nuage en plastique dur. Pour le coup, c'est pas forcément très très agréable, mais bon, j'imagine que ça aurait été un peu compliqué de faire autrement. Et les échelles sont une sorte de carton bois, ouais. Une sorte, on dirait une espèce de bois aggloméré.
C'est du bois très léger.
Ouais, je sais pas trop exactement. Et elles ont des formes différentes. Alors c'est assez rigolo parce qu'effectivement on est censé les prendre au hasard, effectivement dans le tas on se rend pas forcément bien compte de la forme qu'a l'échelle, et de temps en temps la forme peut avoir une influence, enfin peut avoir une importance sur la pose, ouais. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça révolutionne pas le genre du jeu d'équilibre. Pour autant le jeu est un prix raisonnable, 22,50€, donc si vous n'avez pas de jeu de ce type, ça peut être intéressant. Au moins pour voir si ça peut si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire.
C'est vrai que pour le matériel qu'il y a dedans, ça vaut le coup quoi. C'est plutôt du joli matériel.
Donc c'est un jeu édité chez Bombix et c'est un jeu de Juan Rodriguez, Fabien Riffaut et ça a été illustré par Emmanuel Malin. Et c'est pour 2 à 6 joueurs.
Alors, pour terminer, pour faire la transition entre les jeux parus et le jeu à paraître, on va pas parler d'un jeu à proprement parler, même s'il y a un volet jeu dedans, mais on va parler d'un concept qui va être développé en jeu de société et qui est d'ores et déjà développé dans un magazine type magazine de jeu, que vous pourrez trouver peut-être bientôt en librairie. Donc le concept, ça s'appelle Colorage, je sais pas comment...
Je pense que c'est Colorage.
Colorage. C'est à l'anglaise. Donc c'est un concept qui a été développé par Charles Chevalier et Laurent Escoffier. Et en fait, c'est une base de coloriage, mais du coloriage qui va servir en fait à faire du jeu de société, enfin ou à faire du jeu. Alors le principe c'est assez simple, c'est il y a des endroits de départ et on va colorier, il y a des cases en fait qui peuvent avoir différentes formes et on va colorier une case forcément soit à côté de la case départ, soit à côté d'une case adjacente déjà coloriée. Donc je vais vous parler d'abord du volet jeu de société qui est développé par Munster, par Sorry You Are French. Donc
là c'est vraiment Colorage.
Ouais,
j'ai bien compris,
c'est vraiment le jeu qui s'appelle Colorage.
Le code du jeu, c'est ça.
Donc ça c'est pas encore sorti. Donc c'est un principe un peu legacy puisqu'on est sur du coloriage, donc c'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de poster où là sur les démos c'était du format A3. Et vous allez le colorier, donc vous pourrez pas rejouer avec le matériel.
Théoriquement, tu joues qu'une fois.
Voilà. Surtout qu'il y a un aspect un peu découverte. Donc le principe est quand même legacy, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des petites zones où il y aura des autocollants à décoller pour faire apparaître une zone, où il y aura des petites mécaniques un peu plus de société avec des ressources qu'on va pouvoir récupérer, etc. Mais donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et les deux scénarios présentés, c'était des cartes. Donc il y avait une carte Asie, une carte Europe. Et donc chaque joueur va colorier à son tour une case adjacente à une autre déjà coloriée. Donc ça peut partir un peu dans tous les sens, sachant que sur les cases, il peut y avoir des icônes, il peut y avoir des ressources, il peut y avoir des choses à faire, et à la fin, il va y avoir un scoring en fonction de différents objectifs qui seront sur les cartes à colorier.
Ouais, bah en fait, bah donc, enfin moi aussi, donc j'ai fait une partie avec la carte de l'Europe, qui est plutôt orientée un peu éducatif finalement.
C'est plus familial que la carte. Enfin, j'ai fait les deux. Europe est un peu plus familial que la carte Asie, où il y a un peu plus d'objectifs différents et un peu plus complexes.
Ouais. Et en fait, il y a un système de majorité, un système de collection, un système de zone la plus grande.
Oui, c'est ça, de zone la plus grande.
Donc en fait, on retrouve. Moi, je sais pas. Je sais que toi, t'as bien aimé. Ouais. Moi, je suis plutôt à la vie inverse. Moi, je trouve que c'est un jeu qui tire un peu sur des cordes qui me lasse, parce qu'on retrouve effectivement des systèmes qu'on retrouve dans plein de jeux. Et voilà. Sauf que derrière, on rajoute un côté legacy, qui en plus, pour vraiment être sûr que les gens vont pas photocopier le truc ou je sais pas quoi, on rajoute des autocollants pour être sûr que les mecs ils puissent vraiment l'utiliser qu'une fois. Voilà, je suis un peu voilà, ça, le legacy, il y a des trucs que je trouve vraiment très bien fait, et là je trouve vraiment qu'on est en train de tirer sur toutes les cordes et c'est pas forcément très très bon quoi.
Bah, moi de mon point de vue, c'est effectivement les mécaniques, on va dire, de scoring et sont du vu et du revu. Moi justement, j'ai trouvé la partie coloriage ultra ludique. Enfin, moi ça m'a beaucoup amusé de colorier une case chacun à son tour. Il y a quand même une notion de choix qui est de voilà, tu vas colorier une case qui va t'apporter quelque chose à toi, mais tu vas faire des ouvertures parce que quand tu colories une case, tu donnes accès à plusieurs autres cases qui vont être adjacentes. Donc il y a quand même une partie qu'est-ce que je fais, des fois vaut mieux temporiser, colorier une case où tu fais pas une grosse ouverture pour essayer de faire une zone plus grande pour toi. Enfin, j'ai trouvé que la partie stratégique était pas inintéressante, et j'ai vraiment, alors je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu enfant, mais j'ai trouvé ce mécanisme de on se passe le poster, on se passe le, enfin chacun a son crayon et chacun colorie un truc. J'ai trouvé ça très ludique.
Bah il y a une sorte de retour du coloriage à la mode, donc je pense que ça plaira à des gens, hein. Moi j'exprime mon avis de non coloriste, je sais pas comment les gens qui aiment les coloriages s'appellent.
Moi je suis pas un fan, enfin je suis pas quelqu'un qui fait du coloriage en temps normal, hein, mais je sais pas, j'ai vraiment, c'est pas quelque chose que j'arrive à expliquer, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette partie, sur ce jeu.
Est-ce que tu sens une tension du fait du retour arrière impossible, ou je sais pas, des choses comme ça aussi?
Ouais, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire une fois que t'as colorié, tu peux pas dire ma merde. Bon, alors ça, on le fait rarement dans les jeux, mais quand c'est une première partie, des fois on se dit bon bah attends, je refais mon coup,
si moi, quand l'autre personne elle a pas joué, que ça a pas de conséquences, ouais, tu reviens en arrière quoi. Là
quand t'as colorié, c'est compliqué, trop tard quoi.
Bon, à la limite tu pourrais encore, mais en fait, enfin, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que finalement le coloriage, il est, enfin, tu joueras avec des cubes de couleurs pour les poser, ça ferait le même effet, tu vois, ça a pas, il y a pas une vraie plus-value au truc. Moi, j'ai eu l'impression de jouer à 8 minutes pour un empire, sauf que bah, je me faisais quelque part ronfler parce que je pouvais y jouer qu'une fois. Quoi,
ouais. Bah, moi, je pense que j'aurais pris beaucoup moins, enfin, je me serais beaucoup moins amusé à poser des cubes de couleurs. Je suis d'accord, ça aurait exactement le même effet final sur le scoring, mais je pense que je serais beaucoup moins amusé plutôt qu'à colorier. Alors, sur la partie Legacy, je suis d'accord, peut-être que c'est un. Alors, je sais pas si c'est prévu pour éviter le photocopiage ou. C'est pour ça. Parce que on va parler de l'autre volet, parce que cette mécanique de jeu est aussi développée dans un petit magazine de jeux qui s'appelle Captain. Et dans Captain, dans ces magazines, il est prévu de faire des jeux à plusieurs aussi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est censé être solo, mais il y a des petits scénarios,
une sorte,
en gros.
Une sorte de présentation de la version multi.
Pour la version multi, et il compte faire des magazines avec de la version multi dedans.
D'accord.
Mais qui n'a pas ce volet jeu de société. Et en fait, je trouve que si tu enlèves des mécaniques un peu de ressources, c'est-à-dire des choses que tu vas pouvoir collecter, qui vont te servir à acheter, ou à faire. Dans la version Asie, en fait, il y a des usines que tu vas pouvoir collecter pour envoyer après sur des bateaux. Il y a une petite course, en fait, au bateau, qui est assez intéressante. Et la partie, justement, un peu, il y a des territoires, tu sais pas ce qu'il y a dessus. Tu sais que c'est des bonus, mais tu sais pas forcément ce que ça va t'apporter, laisser accès à ces bonus ou pas. Par rapport à la version qu'il y a dans le magazine, dans le multijoueur, que je trouve un peu plus plate. Je trouve qu'il y a vraiment, ça met quand même un peu en relief le, la mécanique en multi. Après, faudra voir aussi le prix de vente. Effectivement, si s'il y a 10 feuilles pour 30 euros, ce sera peut-être. Je sais pas encore comment ça va être édité. Je crois qu'il y aura plusieurs niveaux de prix, plusieurs types de scénarios. Il y aura une variété.
La seule vraie info qu'on a, parce que c'est sûr, c'est les petits magazines, donc Captain, donc qui sont des jeux plutôt solo, hein,
oui,
qui sont des jeux d'optimisation finalement solo. Qui sont là j'en ai acheté un à Paralydic, c'est 4 euros, je sais pas combien il y a exactement de tout dedans, mais
alors c'est le niveau de difficulté augmente. Moi j'ai déjà fait les premiers, il y a une cinquantaine de pages, c'est ça, un peu moins peut-être,
il y a une quarantaine de pages dans le magazine. Après
il y a des
pages doubles peut-être.
Non il y a pas de pages doubles, c'est que des pages,
il y a que
le central qui est multijoueur justement. Donc ça, c'est un jeu, effectivement, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones de départ. Il faut colorier que des cases adjacentes à des cases déjà coloriées ou à votre propre zone de départ. C'est du solo. Et donc, il y a différents symboles. Et il faut optimiser les trajets pour faire le plus gros score possible. Sachant que le score, ça va être, par exemple, il va y avoir des gouttes de pluie. Il va falloir colorier le plus de gouttes de pluie en coloriant 10 cases. Il faut colorier 10 cases à chaque fois. Sauf certains spéciaux.
C'est Captain, donc Cap 10. Quoi.
C'est ça.
Donc c'est 10 cases. Il y a des versions Cap 15.
Ouais, il y a des versions avec 10 cases.
Le jeu marche moins bien.
Et donc il y a plusieurs scénarios. Il y a les petites gouttes d'eau, faut en avoir le plus possible. Après il y a les gouttes d'eau avec les éclairs. Donc les éclairs c'est moins 1. Mais ça peut être intéressant de le passer pour atteindre 3 ou 4 gouttes d'eau d'un coup. Après il y a des scénarios de multiplication. Il y a des lapins, des carottes. Faut multiplier les lapins par des carottes. Et à chaque fois il y a des niveaux d'objectifs, de score. Il y a le niveau en gros débutant, moussaillon, second et capitaine en fait. Voilà. Il y a différents niveaux de scoring. Et donc là c'est de l'optimisation, c'est du solo. Alors j'aime bien, moi j'ai joué, j'ai pas tout à fait fait la moitié, mais j'ai fait une bonne dizaine de scénarios, enfin une dizaine de pages déjà.
Moi j'ai acheté mais j'ai pas encore joué.
Alors je trouve ça sympa. C'est plutôt sympa en solo, mais il y a quand même beaucoup moins de...
C'est moins tactique, c'est un jeu solo.
C'est moins tactique.
C'est de la pure optimisation.
Pas ce côté rigolo de... Colorier en groupe, j'ai trouvé ça vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé ce concept. Après, effectivement, faudra voir la manière dont c'est édité. La durée d'une partie, c'est 30-40 minutes, donc c'est pas des longues parties. Après, s'il y a une dizaine de scénarios, si la boîte est à prix abordable et qu'ils refont souvent des scénarios, moi je suis plutôt emballé par le principe.
On verra un peu comment ça se présente.
Ouais.
Juste donc pour recadrer, on a bien parlé de deux jeux différents qui sont liés par la même mécanique, même principe, donc les deux mêmes auteurs qui ont donc présenté leur jeu d'un côté à Survivor French, qui donc va éditer un jeu de société basé sur le concept du coloriage avec des cartes, etc., et des systèmes de stickers pour cacher des parties. Et d'un autre côté, ils ont présenté ça également à Ilinx Edition, qui donc s'oriente vers l'édition de livres autour du monde du jeu de société, et qui en fait, Ilinx donc en fait des magazines type presse grand public, Sudoku, etc. Et on devrait retrouver aussi le concept finalement dans les magazines comme on retrouve des Sudoku, quoi.
C'est ça.
Donc attendez-vous à retrouver ça dans votre télé 7 jours. C'est pas impossible, quoi.
Ou des magazines dédiés chez votre marchand de journaux. C'est la cible.
Ça risque d'atterrir dans Plateau, par exemple.
Oui.
Je crois.
À la place des Timo Croisé.
Ou en plus.
En plus.
Voilà, donc faites-vous votre avis, hein, là vous aurez eu deux avis assez contraires. On vous laissera vous faire votre avis partant de ces éléments-là. On va passer maintenant au jeu vraiment à paraître, donc avec Coloridge qui a fait la transition entre Captain qui est paru et Coloridge qui est à paraître. Et je vais commencer par vous parler de Nomad, qui est le prochain jeu de la gamme Legend of Luma de Ludonaut. Nomad, on a eu l'occasion d'y jouer tous les deux. Alors Nomad m'a plus séduit que
Au Capitaine.
Que Au Capitaine, oui. Alors c'est pas le même style de jeu du tout.
Non.
C'est vraiment des mécaniques différentes. On a une mécanique d'awalé avec un système de finalement de collection
et d'empilement aussi qu'il y a pas dans l'awalé, mais là il y a un système d'empilement qui a son importance aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est un
ouais,
système d'égrènement et d'empilement à la fois. On va prendre.
C'est-à-dire qu'en fait il y a que le jeton du dessus en fait qui aura une importance
qui va récupérer
dans l'empilement.
Une ressource en gros.
C'est ça. J'ai trouvé le jeu plutôt malin. On va pas rentrer dans les détails.
C'est un jeu de Gary Kim.
C'est ça, oui, c'est
qui est pour 2 à 5. Alors, ça m'a étonné un peu le 2 à 5 parce que je croyais qu'il voulait garder le même nombre de joueurs sur toute la gamme de Legend of Luma.
Et on c'était 2-6, non?
Au capitaine, c'était 3-6. Et donc là, on est passé sur un 2-5, donc ça garde la même fourchette, mais du coup, c'est pas le même nombre de joueurs sur
ouais,
les deux jeux. Quoi.
Alors, oui, c'est un peu embêtant si
donc ça va peut-être changer, mais.
Ouais, c'est un peu embêtant si. Parce que tu voulais faire un système où tu peux enchaîner les parties des
avec
différents
les personnages,
jeux. Donc,
ouais, avec les mêmes
tu démarres à 6
et
finalement t'en perds un, quoi.
C'est ça.
Ou alors ce sera en mode tournoi, ils t'en éliminent un à chaque partie.
Bon, comme c'est pas édité, ça peut peut-être changer encore. Hein,
Oui, c'est possible, ouais. Effectivement.
En tout cas, les 6 personnages sont présents, mais le 6ème en fait est une espèce de bonus qu'il y a sur le jeu. Je sais plus le nom du personnage, mais c'est la petite vieille là qui permet d'avoir un bonus.
Faut pas me demander.
Oui, moi j'ai plutôt bien aimé aussi, c'est assez différent, mais c'était la volonté aussi des Ludonautes de faire 6 jeux et de balayer un peu des mécaniques différentes au niveau des 6 jeux. Donc on avait un premier jeu qui était un jeu de bluff, que moi je trouve plutôt sympa. Hein,
ouais, qui fonctionne.
Qui fonctionne
mais...
bien, pour moi c'est tout à fait... c'est peut-être même un peu plus subtil qu'un Perudo, qu'un Skull. Enfin, on est dans cette. Il y a un petit peu plus de composantes, on va dire.
Bah, y a, en fait, j'aurais pas dit subtil, justement. T'as plus de composantes de bluff.
Ouais.
Et, parce que dans Skull,
oui.
L'intérêt, justement, c'est la subtilité, c'est le metagame qui est autour. Que là, tu as peut-être du mal à créer dans le capitaine.
Oui, non, subtilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a un niveau supplémentaire de bluff. Ouais.
C'est ça. Et donc oui, donc Nomad, un système d'égrènement avec il y a un système de course en fait pour obtenir des objectifs.
Oui.
Et en même temps il y a un point de bascule dans le jeu, c'est-à-dire que il y a un moment où on va accumuler, enfin au début on va accumuler
des fragments d'histoire en fait. Thématiquement c'est des fragments d'histoire, donc il y a plusieurs symboles en fait.
On va accumuler des jetons de couleurs.
Ouais, des jetons de couleurs différentes. Mais il faut rêver un peu, c'est les légendes de l'humain.
Ouais, non mais. On accumule des fragments d'histoire autour du camp, autour du feu, où les nomades nous racontent leurs histoires. Et quand on en a un certain nombre, on peut acheter. On peut réécrire l'histoire. Et on peut agrémenter l'histoire au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'en gros, on a obtenu une carte 2, j'ai donné deux fragments. J'obtiens la carte 2 et plus tard, je peux en dépenser 3 par exemple
pour avoir
la carte
5
à la place. Il y a un système comme ça qui permet de bloquer les adversaires en prenant les cartes
et d'augmenter
et puis ensuite d'augmenter le nombre de points qu'on obtient.
D'ailleurs, on s'est fait un peu avoir parce qu'à la première partie, on a tendance à un peu accumuler pour acheter le plus haut possible. Mmh. Et en fait, on se retrouve bloqué à la fin, alors qu'il vaut mieux acheter au fur et à mesure et justement avec ce système de d'achat différentiel, pouvoir augmenter progressivement ses histoires.
Ouais. D'autant qu'on bloque les autres en achetant petit.
Ouais.
Bah, c'est Acariat, surtout, qui en a fait les frais dans notre partie. Hein.
Ouais.
Petite dédicace. Il a fini avec moins combien?
Je sais pas, mais c'était un score jamais vu auparavant.
C'est possible. Bon, on avait peut-être pas eu bien les... Ah, c'est un phénomène dans les festivals, hein. Souvent on a les règles un petit peu expliquées vite. Alors, je dis pas qu'on nous a pas tout expliqué, mais les gens ils expliquent les règles 10 fois, au bout d'un moment ils squeezent un petit peu des petites précisions,
ouais.
Ou ils oublient d'insister sur des choses et du coup bah, soit on oublie une partie, soit on n'a pas forcément bien compris.
L'effet découverte aussi, voilà, qui fait que on apprend en jouant, quoi.
Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, plus que
au capitaine. Ouais, c'est
que au capitaine, ouais. Parce que j'ai trouvé que celui-ci était peut-être un petit peu plus original aussi.
Mmh, c'est vrai.
Donc voilà pour Nomad à apparaître, on sait pas trop quand.
Normalement fin d'année. Ils ont prévu un rythme de croisière de 2 par an, donc au capitaine venant de paraître, ce sera plutôt pour Essen ou un peu après, quoi, fin d'année.
Ok.
Alors, en jeu à paraître aussi, moi je voulais vous parler de Dungeon 365. Donc il y a un Kickstarter à paraître pour la fin, un Kickstarter qui va être lancé fin d'année par Sorry We Are French toujours.
Alors là, on va loin, hein, parce que c'est Kickstarter pour la fin de cette année et c'est prévu de paraître pour l'année pour Noël de l'année suivante.
C'est ça. Mais néanmoins, c'est un concept qui moi m'a beaucoup plu aussi. On va croire que j'ai des actions c'est chez Sorry We Are French, mais c'est pas du tout le cas. Mais alors, c'est il faut imaginer un jeu de rôle solo, à mi-chemin en fait entre le jeu de rôle et le livre dont vous êtes le héros, du coup, qui était déjà, enfin le livre dont vous êtes le héros, c'est déjà un peu un jeu de rôle solo. Et là où c'est intéressant, ça va se présenter sous forme d'un bloc-notes, une espèce de gros bloc-notes. Il y aura un joli socle en bois, il y aura un certain nombre de dés, il y aura un petit stylo. Et en fait, le principe, c'est de vivre une aventure sur une année, enfin sur 365 jours. Et donc à chaque jour, on va, en gros, c'est un gros bloc-notes de post-it. Mmh. Et à chaque jour, on va passer au post-it suivant et il va se passer des choses. Donc au début, il y aura plusieurs post-it le premier jour pour un peu mettre les bases de l'histoire.
C'est un peu la partie tutoriel.
Voilà. Et l'idée, c'est de jouer 5-10 minutes par jour. À chaque fois, il y a un petit post-it. Il y a soit un PNJ avec lequel on va pouvoir interagir, soit un monstre qu'on va devoir combattre. Donc avec un équipement de départ, on aura un petit inventaire, etc. Et le principe, c'est voilà, c'est ça. C'est juste ça, mais c'est, moi, je trouve ça génial. C'est de chaque jour prendre un nouveau petit post-it et voir ce qui va se passer. Et donc il y a tout un storytelling, il y a plein d'étapes en fait. Chaque mois chaque 30-31 jours il y a des étapes qui se passent. Donc on commence dans une forêt en fait. Manu Beltrando du coup de Sorry We Are French nous a présenté le premier mois en gros. Donc je vais pas spoiler parce qu'il y a plein de petites subtilités, mais en gros sur le premier mois on est dans une forêt et puis à la fin du premier mois c'est un peu l'initiation en fait, c'est un peu le tuto. À la fin du premier mois on arrive paf devant la porte de notre premier donjon et puis on va évoluer comme ça dans l'histoire avec plein de petites choses sympas. Voilà, donc c'est un teaser parce que ça va arriver que fin d'année sur Kickstarter et ce sera pas avant l'année prochaine. Mais sur le principe de un jour, c'est un peu comme les calendriers, un jour, une partie de l'aventure, le concept, moi, m'a beaucoup séduit.
Bah, je pense que ça atteindra une cible bien geek.
Oui.
Je pense que ça marchera bien. Alors, j'ai que comprendre que c'était pas des post-it, hein, c'est un bloc-notes, donc tu pourras pas les coller. Mais,
c'est un format, enfin, le format qu'on avait, c'est un peu un format grand post-it large, là.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est un peu ce format-là.
Ouais. Et alors malgré tout, enfin, il y a un scénario, mais ce sera très linéaire, si j'ai bien compris. Il y aura quand même possibilité, ça va pas spoiler beaucoup, mais le personnage va évoluer,
oui.
Hein, comme dans un jeu de rôle. Et si j'ai bien compris, les fourches là sur l'évolution des personnages, elles seront quand même assez larges.
C'est complexe. Ouais.
Et donc on aura largement possibilité d'avoir un personnage différent de celui de son copain qui joue en même temps que nous.
Oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y aura des éléments contextuels, c'est-à-dire que, en gros, au moment où quand tu vas jouer, il va y avoir, ça va peut-être te dire, tel monstre va être plus fort s'il pleut aujourd'hui,
par exemple. Ou si moins fort s'il fait nuit quand vous faites le combat, etc.
En tout cas, enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois original et en même temps pas du tout. Et c'est ça que je trouve assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est basé sur quelque chose de très convenu, quoi. C'est du jeu de rôle assez classique, ou comme tu disais, jeu dont vous êtes le héros. Mais il y a un côté,
il y a la forme qui fait tout.
Il y a la forme qui fait beaucoup. Bah, un peu aussi, c'est un côté legacy, hein, oui. comme le reste. Sauf que là, bon, je pense que pour le coup, c'est un peu plus, entre guillemets, rentabilisé, même si le terme est peut-être pas adéquat.
T'as 365 jours de jeu, même si c'est que 10 minutes par jour, et puis c'est un peu le principe aussi de, j'ai ça peut-être au bureau, au boulot, ou même dans mes toilettes, quoi.
D'aller au boulot.
Je peux faire une petite pause de 10 minutes, lancer mes dés, faire mon petit combat, et ça chaque jour, donc c'est assez malin. Et c'est un jeu où on peut pas vraiment perdre, puisque en fait on ira quoi qu'il arrive au bout du scénario. Par contre on arrivera au bout du scénario pas du tout avec les mêmes stats ou avec le même niveau, etc. Et ça sous-entend aussi qu'il y a potentiellement une saison 2 déjà qui pourrait être prévue et dont on repartirait avec le même personnage qu'à la saison 1. Donc en fonction de comment on termine la saison 1, il pourrait y avoir un intérêt à le terminer avec le plus haut niveau possible.
Voilà, donc ça c'était Dungeon 365, et c'est d'un auteur coréen, je crois. Ouais.
C'est l'auteur de Minuscule.
Ah oui, oui.
Je sais plus son nom, mais c'est l'auteur
de. Pas du tout le même genre de jeu.
C'est pas du tout le même genre de jeu. Non. C'est très bien, Minuscule aussi.
Ah bon, tu trouves?
Ouais, moi je trouve ça.
Ça avait pas l'air.
Avec les enfants, c'est sympa.
Ouais, peut-être. Je vais vous parler maintenant de Feelings, qui est un jeu de Jean-Louis Roubiera et Vincent Bidot, qui est à paraître chez Acting Games et qui est illustré par Franck Chalard. Alors Feelings, c'est un jeu. Alors vous avez entendu Jean-Louis Roubiera. Jean-Louis Roubiera, c'est un.
Dixit.
C'est Dixit, tout à fait. Et c'est un jeu qui est un petit peu dans cet esprit-là. C'est un jeu sur les sentiments, d'où le titre du jeu. Je crois que c'est pour 3 à 8 joueurs. À la base, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un projet plutôt orienté psychiatrie. Donc peut-être que Vincent Bidot est peut-être baigne dans ce milieu. Je dis ça avec, faut prendre ça avec des pincettes. Mais à la base, il me semble que c'est un concept qui est pas vraiment un jeu, qui était fait pour faire parler les gens en fait sur leurs sentiments. Et le principe du jeu, c'est qu'un joueur va prendre une carte sur laquelle il y a une phrase du style qu'est-ce qu'on a eu? On a eu par exemple. Alors il y a 3 types de cartes différentes. Il y a une carte orientée pour les enfants, des cartes orientées adultes. Où là, ça va être plutôt des thèmes un petit peu entre adultes consentants, et un thème plus société, donc sur des événements qui pourraient se passer dans la société. Donc, on avait eu par exemple, on vient de créer un robot qui a des sentiments. Voilà. Et là-dessus, au milieu de la table, il y a des cartes qui présentent des sentiments qui sont numérotées. Dans notre main, on a des cartes avec les numéros qui correspondent à ces sentiments-là, et on va devoir nous poser le sentiment que ça nous évoque et essayer de deviner le sentiment de notre voisin de gauche. Et tout le jeu en fait est ensuite de discuter sur pourquoi notre sentiment par rapport à ça.
D'accord.
Du coup, c'est vraiment un ovni hein, comme type de jeu.
Un ovni.
Je sais qu'entre nous ça a pas trop marché en fait parce que j'avais joué avec deux amis, mais en fait on discutait pas vraiment des sujets derrière, donc du coup ça tombait un petit peu à l'eau. Le jeu est vraiment fait pour discuter des sujets qui sont derrière, et je pense que ça doit marcher particulièrement bien avec les enfants. Quand on veut discuter avec ses propres enfants par exemple de pourquoi ils ressentent tel sentiment dans telle circonstance, etc. Donc je vous invite à vous pencher sur ce jeu qui est peut-être pas vraiment un jeu finalement, je sais pas. Alors il y a un système de points tout ça, mais c'est le genre de jeu dans lequel on peut très vite oublier le système de points. Où le principe en fait est de si on a trouvé le sentiment de notre voisin de gauche, on marque un point. Si il y a un système de bonus si on s'est fait trouver et si on a trouvé, donc il peut y avoir un côté où essayer d'être un peu consensuel aussi, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est encore en cours de développement, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est un jeu vraiment original.
J'ai pas vu passer non plus.
Il y a rien que pour ça. J'ai pas été très séduit par les illustrations. Ça m'a pas beaucoup attiré. On a essayé parce que la table était libre et que arrivé le dimanche, il y avait plus grand chose de disponible. Très sincèrement. Hein. Mais plutôt surpris par le style du jeu.
D'accord. Pour continuer, je vais vous parler rapidement de Small Detective. Donc, Small Detective, c'est un jeu de Charles Chevalier et Bruno Feiduti qui va sortir très prochainement chez Pixie Game. Alors, le principe de Small Detective, c'est en gros un Cluedo en 10 minutes. Et c'est un petit jeu d'enquête assez rapide.
Ouais.
Donc en fait, il y a 4 personnages, 4 armes. Qui sont sous forme de tuiles.
Mmh.
On va mélanger ces tuiles et on va en écarter 2 qui vont être sous le commissariat, qui seront en fait
un personnage et une arme, j'imagine, du coup.
Un personnage et une arme qui seront du coup le meurtrier et l'arme du crime. Et les 8 tuiles restantes d'armes et de personnages, on va les répartir autour. En fait, ça va former un village. C'est y a un petit rond. On va les répartir les tuiles en rond autour. Donc chaque arme, c'est une face recto verso. En fait, au recto, on a une petite maison et au verso, on a un des éléments. Et d'accord. Donc on va mettre ces petites maisons autour du village. Donc il y aura le commissariat qui est un lieu particulier sous lequel il y a deux tuiles qu'il faut retrouver en fait. Mmh. Et il y a le bar qui vont nous permettre d'interroger un peu les autres joueurs. Et on va avoir chacun un petit personnage qui va partir d'une maison. Et on va avoir des cartes qui vont nous permettre de tourner en fait autour du quartier, d'avancer d'un certain nombre de cases dans un sens ou dans l'autre.
D'accord.
Ou d'aller sur la case qu'on veut, enfin il y a un certain nombre de cartes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois la carte qu'on va jouer, on va la passer à notre voisin, donc il pourra jouer la même action au tour d'après. Et en fait, l'idée c'est de réussir à arriver sur une maison tout seul. Si on est plusieurs, on ne peut pas regarder ce qu'il y a en dessous.
D'accord.
Si on est tout seul, on regarde ce qu'il y a en dessous. Et c'est une Cluedo Memory, c'est-à-dire qu'il va falloir se souvenir de ce qu'on a vu, et par élimination, quand on aura, quand on pense avoir la bonne réponse, on doit atterrir avec une carte sur le commissariat et tenter
et donc
d'annoncer les deux. Donc on n'annonce pas, on regarde par rapport. Ouais. Et si on s'est trompé, en fait, on est éliminé et les autres continuent.
Ok, d'accord.
C'est pas révolutionnaire, c'est plutôt simple et efficace. Ça marche bien. La promesse est tenue. On a vraiment la sensation de mener une petite enquête. Ça dure 10-15 minutes.
Vraiment le Cluedo en 10 minutes.
C'est ça.
Ok.
Voilà.
J'ai essayé dans le style, j'ai essayé
Sherlock 13, ouais, j'ai voulu essayer aussi, mais.
Bah, qui est. Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu de déduction, mais en même temps, il y a la limite avec un jeu de guessing parce que chaque joueur a une partie des informations. Là, il faut juste trouver le meurtrier, en fait. Et chacun a des cartes qui représentent des meurtriers potentiels. Et sur chaque meurtrier, en fait, il y a un certain nombre de symboles. Et donc, tu vas poser des questions sur le nombre de symboles, en gros, que les autres joueurs autour de la table ont, et pour en déduire celui qui a été écarté en fonction des symboles disponibles. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Comme tu dis, pour Small Detective, ça révolutionne pas trop le genre.
Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est un jeu de déduction et en fait, il se retrouve un petit peu à la limite avec un jeu de guessing parce que tu vas poser des questions à l'autre et en fonction de la question que tu vas poser, ça peut donner une indication sur le sens de ta question fait que
tu as peut-être
les symboles en question sur lesquels tu poses des questions.
Ok. Bah, Small Detective, du coup, je refais vite l'affiche, c'est un jeu de Charles Chevalier et Bruno Feiduti, apparaît chez Pixie Games, c'est pour 2 à 5 joueurs, il me semble, et c'est pour des parties d'environ 10-15 minutes.
Ouais, c'est prévu quand ça, tu sais?
Ça devrait pas tarder, hein. C'était prévu pour Paris Ludique au départ.
Ouais, ça avait l'air pas mal avancé.
Ouais, c'était prévu pour PL, ça a été retardé, donc je dirais Gen Con ou Essen au plus tard, quoi.
Et maintenant, je vais parler de Time Arena. Alors, Time Arena, c'est mon coup de cœur du salon. Du festival, pardon. C'est un festival, quand même. Time Arena, c'est un jeu qui est à paraître chez Blame Edition. Alors, ils se sont fixé le challenge assez compliqué, je pense, de le faire sortir pour Essen, parce qu'ils ont signé en début d'année. Et c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu d'affrontement en temps réel. En fait, chaque joueur va avoir 5 minutes de partie. Façon un peu jeu d'échecs de compétition.
Et un timer pour chaque joueur.
C'est ça, ouais. Et c'est, en gros, si on a dépassé les 5 minutes de jeu, on a perdu.
Quoi qu'il arrive.
C'est une des conditions de défaite. Et la condition de victoire, autrement, c'est de réussir à détruire le totem adverse dans les 5 minutes. Mmh. Et c'est un jeu à la frontière entre un jeu de société et un jeu de société d'affrontement et Clash Royale,
ouais,
c'est ça?
Clash Royale.
Clash Royale, hein. Qui est un jeu en free-to-play sur smartphone.
Avec des arènes et différents monstres qu'on peut envoyer à l'assaut des tours ennemies.
Ouais, c'est ça.
En temps réel.
Là, on va choisir au début, j'ai choisi entre guillemets, parce que, le jeu est pas totalement finalisé, hein. On va choisir 3-4 personnages. Chaque personnage a un sablier avec un temps différent.
Un temps de respawn, en fait.
C'est ça. Et on va donc placer nos personnages sur le plateau de jeu. Après, c'est assez basique, hein, finalement, parce que ils ont un nombre de déplacements possibles,
une force d'attaque,
une force de défense. Là où le jeu est original, c'est que ça se joue en temps réel et que effectivement, dès qu'un de nos personnages se fait détruire, et ben on va retourner un sablier qui va lui permettre de respawner
à la fin du temps
du sablier. Voilà. Et c'est vraiment c'est vif. Il faut réfléchir très vite.
Il y a une grosse pression.
Il y a vraiment la grosse pression du temps. En 5 minutes, ça va très 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 vite. Et on peut vraiment jouer avec l'adversaire en faisant 3 fois rien finalement, et juste en lui redonnant le temps. Il a pas eu le temps de réfléchir, et là pouf, il va perdre je sais pas 5-10 secondes comme ça, juste à pas jouer, parce qu'il savait pas que il pensait pas qu'il allait devoir jouer si vite, quoi.
Ouais, moi j'ai joué aussi, j'ai bien aimé. Il y a vraiment deux manières de jouer, effectivement, comme tu le disais. Il y a soit vraiment on prend son temps et on essaye de vraiment d'aller attaquer le totem de l'adversaire, justement pour gagner à la destruction de l'adversaire. Ou alors moi j'ai joué plutôt en défensif, c'est-à-dire que je faisais pas grand-chose, j'essayais juste de placer un peu mes bonhommes en gêne et j'attaquais vraiment quand j'étais très menacé, ouais, mais j'essayais de jouer très vite. Et on a fait une partie avec Mathieu Bossu, qui est un de nos tipeurs, mais qui était une partie tendue, c'est-à-dire que ça s'est joué à la seconde près, c'est-à-dire que il lui restait quelques secondes, il est venu près de mon totem, moi je jouais vraiment défensif, lui plutôt offensif, il a lancé son dé... Et le buzzer a annoncé la fin de son temps, sauf qu'il avait déjà lancé le dé. Et là, il est tombé sur une phase qui faisait qu'il détruisait mon totem. Donc l'auteur était dans les parages, on lui a demandé est-ce que c'est le lancer qui compte ou est-ce que c'est l'arrêt du dé qui compte sur le terrain. Il fait non, c'est comme au basket, c'est le lancer du dé qui
c'est
compte.
C'est le lancer.
Et donc, comme il avait lancé avant le buzzer, même si le dé s'est arrêté après le buzzer, il a gagné sur le fil. Mais c'était. Et c'est un jeu où il y a beaucoup de tension, ouais. Je suis pas sûr d'être un grand fan de cette tension et de ce côté où il faut réfléchir à toute allure.
Le côté temps réel, quoi.
Mais c'est vrai que c'est très réussi de ce côté-là.
Bah, le jeu est pas super original en fait en tant que tel. Hein, comme je disais, la mécanique elle est pas très originale, mais le fait d'avoir rajouté ce temps réel et puis il y a des petites subtilités rigolotes, quoi. Effectivement, le temps le temps réel, le fait de ce couperet du t'as dépassé ton temps de jeu,
t'as perdu
rien que ça change toute la dynamique d'un jeu.
On est un peu sur les mêmes sensations de pression qu'un Magic Maze, quoi. C'est un peu catégorie de jeu. Alors c'est pas du tout la même mécanique de jeu, c'est
sauf
pas du
que
tout
là en plus c'est de l'affrontement, donc
là c'est de l'affrontement, mais on a vraiment cette urgence et cette panique que ça peut entraîner de pas savoir quoi faire et d'avoir le temps qui défile.
Tout l'intérêt des jeux temps réel, en
c'est
fait
ça.
C'est je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. Alors ils ont prévu des personnages avec des capacités différentes, etc. Donc on a joué des personnages assez basiques. Je sais pas ce que ça apporte les personnages un peu plus complexes. Ils ont prévu ça pour Essen. On va voir s'ils y arrivent. S'ils y arrivent, je pense que ça devrait faire un carton.
J'attends de voir l'édition aussi, parce que là, on avait vraiment un timer.
Oui, le vrai timer.
Échec,
un
vrai timer. Il y a quand même 8 sabliers dans la boîte. C'est un jeu qui dure maximum 10 minutes. Un jeu d'affrontement, ça va très vite. Le rapport, en fait, prix d'édition, temps de jeu, intérêt de jeu, j'attends de voir où ça va se situer,
ouais.
Parce que.
Ah, il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose de pas trop cher.
C'est clairement pas un jeu pour lequel je mettrais plus de 30 euros, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le genre de jeu sur lequel la limite psychologique elle est autour de 30 euros.
Donc,
et ça va pas être facile de faire entrer ça.
Je sais pas comment, d'un point de vue éditorial, ils vont faire ça. Est-ce que ça va être une appli pour le.
Alors, c'est une appli. Ce qui est prévu, c'est que ce soit une appli et il y aura pas un timer. Il y avait un DGT du haut, là, mais les timers vraiment de type
d'échec,
compétition. Ouais. Mais là, ce sera une appli. Et a priori, il y aura peut-être aussi un système. Pour les respawns, il y aura dans l'appli, il y aura la possibilité de compter, compter les sabliers avec l'appli.
D'accord.
Parce qu'un sablier, ça peut avoir 2-3 secondes, il disait, pour les très,
pointilleux.
Très pointilleux, ouais, c'est ça. Il faut que le sablier soit pile poil. Ouais, c'est ça. Bref. Un Time Arena apparaître chez Blame Edition pour 2 à 4 joueurs. J'ai omis le nom de l'auteur, c'est son premier jeu.
Oui, j'ai oublié aussi. Le dernier jeu dont je vais vous parler pour ce petit retour de pelle, c'est Civ. Civ, c'est un jeu à paraître chez les Ludonautes. Alors c'est pareil, j'ai oublié le nom de l'auteur. J'ai pas noté sur place, et comme c'est un jeu qui n'est pas encore édité, c'est dur de trouver l'info.
C'est pas Florian Cerniex, c'est le non c'est
je suis pas
le troisième
sûr
non
que ce soit Florian Cerniex le troisième
non. Le troisième de Legend of
Fluma.
Ah
non, c'est pas dans Legend of Fluma.
D'accord.
Non, c'est un jeu qui n'est pas dans Legend of Fluma. Et c'est un petit jeu de civilisation. Donc et qui se veut assez rapide, assez nerveux. C'est vrai que ça tient en moins d'une demi-heure.
D'accord.
C'est un principe de jeu de cartes où à chaque tour on va poser une carte. C'est un jeu de collection et il y a différentes couleurs en fait. Il y a comme les jeux de civilisation, il y a le militaire, il y a le religieux, il y a le civil, enfin voilà,
scientifique,
voilà, il y a les différentes couleurs. Et donc à chaque tour de jeu en fait on va poser une carte et en repiocher une. Et il y a trois âges. Sauf que les âges c'est pas séparé, c'est-à-dire que c'est juste quand on arrive à la fin de la pioche du premier âge, ben le suivant va piocher une carte du deuxième âge, etc. Il y a la pioche qui va descendre au fur et à mesure. Et c'est un mécanisme de si je suis majoritaire dans une couleur, je vais pouvoir faire des choses. À partir du moment où j'ai deux ou trois cartes dans une couleur, je vais pouvoir faire une action spécifique. Quand j'en ai six, je vais pouvoir faire une autre action. Ça va être des actions d'échange, ça va être des actions d'empêcher quelqu'un de poser d'une couleur. Ça va être ce genre d'action. C'est assez simple. Ça marche plutôt bien. Encore une fois, ça révolutionne pas le genre, mais ça tient à la promesse, un petit jeu de civilisation en moins d'une demi-heure.
Ouais.
Donc sur le jeu en lui-même, j'ai pas été ébloui, super convaincu. Ça fonctionne, mais c'est pas fou. Par contre, d'un point de vue, alors il y avait déjà des graphismes plus ou moins avancés sur le jeu. C'est un parti pris graphiste. C'est Christopher Matt qui graphique. C'est Christopher Matt le dessinateur. Et on est sur quelque chose d'assez intéressant. C'est un truc un peu épuré avec des visages très peu détaillés, des corps un peu élancés, mais j'ai trouvé ça très joli.
D'accord.
Alors j'ai pas d'image à montrer, mais en plus je connais un peu Christopher, c'est pas du tout son style graphique habituel, il est plutôt très cartoon, et là il a fait un truc il est un peu sorti de sa zone de confort et je trouve ça très réussi.
Ok.
Voilà, poursuivre. Je n'ai pas plus de choses à dire. Ça va sortir chez les Ludonautes, je crois. C'est prévu pour la fin d'année aussi. Et c'est en dehors des Légendes de l'Ombre. Ben voilà pour les jeux qu'on voulait vous présenter. Alors, bien sûr, on n'a pas tout présenté. Hein. C'est un salon. On n'a pas le temps de tout voir. On n'est jamais exhaustif sur ce genre de salon. C'est aussi très compliqué, des fois, de se faire un avis sur une seule partie d'un jeu. Donc, voilà.
Ça reste à prendre avec des pincettes.
Ça reste à prendre avec des pincettes. Désolé si on n'est pas venu, si on n'est pas allé tester le jeu que vous attendiez ou la chronique que vous attendiez.
Il fallait nous le demander avant.
Fallait nous faire les demandes. on n'a pas le temps de tout voir. C'est vrai que ça passe vite. C'est vrai que sur ces salons, on passe beaucoup de temps aussi à discuter, à rencontrer des gens. Donc, on ne sait pas forcément.
Les gens sont chiants. Ils veulent parler.
Pas forcément notre temps de jeu. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que nous on a vu en tout cas et de notre salon de cette année.
Alors c'est vrai que globalement je suis un peu déçu de mon PEL parce que comme je disais au début ça a été assez difficile de jouer. J'ai clairement le dimanche après-midi j'étais avec un ami qui avait pas joué depuis très longtemps et que j'avais pas vu depuis un moment et on a pris le parti de jouer à des jeux que je connaissais dont les tables étaient libres et que je savais qu'ils étaient bons. On a joué à Deep Sea Adventure, on a joué à King Domino, on a voulu aller jouer comme je disais au début sur les jeux à volonté, on n'y est même pas arrivé. Le salon était vraiment plein. J'ai essayé de jouer à Photosynthesis le week-end. J'ai pas réussi.
On a essayé d'y jouer ensemble un moment, mais
c'est ça.
La table était prise d'assaut.
Donc voilà, on fait pas non plus tout ce qu'on veut sur ce genre de festival. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué.
Ouais. Bon, moi j'ai à peu près 10 fois plus joué que l'année dernière puisque j'étais sur le stand de jeu de demain toute l'année dernière. Donc pour moi c'était plutôt plus positif.
Plutôt positif. Ouais.
Mais c'est vrai que au final, quand on fait le bilan, on n'a pas joué à énormément de choses.
Voilà, donc c'était notre retour de Paris et Ludique 2017 et c'était le dernier épisode jeu du mois entre guillemets de la saison et le dernier épisode série de la saison. Il y aura un hors-série cet été. Il y aura également des épisodes d'interview qui ont été réalisés à Débrisel et des Jeux et on va donc vous dire à la saison prochaine au mois de septembre
vacances.
Et puis d'ici là, jouez bien.